Bonjour, c'est François Langlais. Bienvenue dans le podcast hebdomadaire de Langlais Co.
Bonjour à tous, c'est Catherine Mangin. Chaque semaine, je dialogue avec François sur les mutations, les évolutions qui résultent de la crise du coronavirus, afin de mieux comprendre comment l'économie s'adapte au fil de la pandémie. Alors François, une révolution fiscale mondiale est en train de se préparer.
Oui, incroyable. Le G7, donc, qui rassemble les économies les plus puissantes de la planète, parmi lesquelles évidemment les États-Unis, se prépare à adopter le principe d'un impôt mondial minimal sur les bénéfices, c'est-à-dire qui frappe les bénéfices des entreprises à 15%. Ça veut dire que tous les pays du monde seraient obligés, en quelque sorte, ou s'engageraient en tout cas, à mettre en place un impôt sur les bénéfices minimal à 15%. Rappelons que la France est quasiment au double aujourd'hui, parce qu'elle est à 28% et à ça s'ajoutent des contributions sociales de 3,3%. Donc elle ne sera pas impactée directement, au moins dans la fixation de son taux, mais en revanche, elle le sera dans le fait qu'il y aura une concurrence fiscale de la part des autres États qui sera moins forte qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des disparités très importantes dans le monde parce que la France a quasiment le taux le plus élevé des pays développés, aux alentours de 30% donc. Mais il y a bon nombre de pays qui sont pas loin de zéro, voire à zéro même pour les paradis fiscaux. Alors, l'accord devrait être signé d'abord au G7 et puis ensuite être élargi au sein de l'OCDE qui regroupe quand même plusieurs dizaines de pays avant d'être étendu au monde entier. Jamais jusqu'ici la planète n'est parvenue à un tel compromis, donc ça serait vraiment historique et ça permettrait donc d'éviter la délocalisation fiscale, parce qu'on sait très bien que certaines entreprises qui ont plusieurs établissements dans différents pays choisissent délibérément pour se faire imposer d'installer leur siège dans le pays où l'impôt est le plus faible. Je dirais que cette délocalisation fiscale, elle est même institutionnalisée en Europe puisqu'elle est permise, hein, donc c'est pour cela que des entreprises comme Apple ou Amazon domicilient toutes leurs activités en Irlande, qui est l'un des pays où la taxation est la plus faible, et où même ils parviennent à négocier avec le gouvernement des accords fiscaux spécifiques rien que pour eux. Une étude a été publiée il y a quelques années qui montrait que Apple payait entre 1 et 2% d'impôts sur ses bénéfices, c'est-à-dire quasiment rien, grâce à cet accord avec le gouvernement irlandais.
Mais on avait déjà la taxe sur les géants du numérique pour corriger ces distorsions.
C'est vrai. Et alors, c'est relativement récent, hein, et ça avait été mis en place par la France. La France a joué vraiment un rôle de fer de lance là-dessus. C'était un pis-aller, justement pour essayer de compenser le manque à gagner de recettes occasionnées par, j'allais dire, les manipulations des GAFA. C'est un mot un peu fort, parce que les GAFA le disent d'ailleurs eux-mêmes, ils s'en prévalent. Il n'y a rien d'illégal. C'est le système européen et ses vicissitudes qui permettaient cela. Donc, la France l'a mis en œuvre il y a quelques années, mais elle a prévenu qu'elle renoncerait à cette taxe en quelque sorte unilatérale dès qu'un accord international serait trouvé. Il est donc tout à fait possible que cette taxe GAFA disparaisse bientôt au profit des nouvelles dispositions.
Mais alors François, comment se fait-il qu'on ait pu trouver un accord sur un sujet aussi sensible ?
C'est vrai que c'est très délicat parce que, en fait, les gouvernements élus démocratiquement tiennent à conserver dans leurs mains le levier fiscal. Parce qu'ils estiment que c'est un instrument de souveraineté économique important. Ils ont raison, d'ailleurs. Et puis, évidemment, le fait qu'il y ait une contrainte internationale, ça va limiter les possibilités de faire valoir son attractivité fiscale, qui était, pour certains pays, le seul moyen de faire venir des entreprises. Hein. C'est le cas de l'Irlande, qui s'est redressée comme ça il y a une trentaine d'années avec cette stratégie. Je ne parle même pas des paradis fiscaux, qui, eux, sont de toute façon des hors-la-loi. Cela se mettait en travers de toute disposition internationale régulière. Le point clé qui explique la réussite qui est sur le point de se produire, c'est le changement de présidence aux États-Unis. Joe Biden veut lui-même augmenter les impôts sur les bénéfices des sociétés pour les passer de 21 à 28% pour financer, au moins en partie, ces gigantesques plans de relance et plans d'investissement. Ben, du coup, il a tout intérêt à ce que les autres fassent de même ou qu'au moins à ce que les autres ne permettent pas aux entreprises, et notamment aux entreprises américaines, de délocaliser leurs profits. Au départ, il voulait même un taux minimal plancher plus important. Il voulait le fixer à 21%. Ça a suscité beaucoup de critiques, donc un compromis se dessine aux alentours de 15%. En fait, ça montre, une fois de plus, que ce sont les États-Unis qui entraînent le monde entier. Et qu'à partir du moment où ils ont une conviction, eh bien, ils ont le pouvoir relatif et la capacité diplomatique, les menaces de sanctions suffisantes pour faire bouger tout le monde. Rappelons que ça avait déjà été le cas en matière fiscale avec Obama, qui avait de facto supprimé le secret bancaire suisse, puisqu'il avait contraint UBS, c'est l'une des grandes banques suisses, a révélé le nom de ses clients qui possédaient un compte jusqu'ici échappant à la taxation. Et si UBS ne l'avait pas fait, eh bien, elle aurait tout simplement été interdite d'exercer aux États-Unis, ce qui signifiait sa mort, parce que les États-Unis sont quand même la principale place financière mondiale. Donc c'était Obama qui avait fait sauter le secret bancaire et c'est Biden qui va probablement arriver à la mise en place d'un impôt minimal mondial.
Alors la question qu'on se pose, François, évidemment, c'est de savoir s'il sera possible de contraindre tous les pays du monde et on pense en premier lieu, bien sûr, à la Russie ou à la Chine.
C'est vrai qu'il y a quand même une question qui subsiste. Alors la Russie et la Chine, en fait, elles ont aujourd'hui des taux d'imposition sur les sociétés qui sont supérieurs à 15%. Du coup, elles ne se sentiront pas impactées. Il est probable que si elles l'étaient, elles refuseraient de mettre en place cette disposition internationale parce qu'elles ne veulent pas soumettre à la communauté et a fortiori une communauté dirigée par les États-Unis. Mais c'est vrai que pour une entreprise, le fait de choisir d'aller se faire domicilier à Moscou ou à Pékin, ça représente quand même pas mal de risques. Donc on peut penser qu'au fond, ils sont hors communauté mondiale pour cette raison-là. Reste la question des paradis fiscaux qu'on évoquait à l'instant, ces États renégats, c'est les Bermudes, les îles Caïmans. Alors ce sont quand même de petits territoires qui sont dans l'orbite géopolitique américaine. Et là aussi, on peut penser que la puissance américaine, à partir du moment où un accord international est établi, va exercer son influence et même peut-être ses menaces pour faire cesser au moins en partie ses pratiques fiscales. Alors, le problème, c'est l'Europe, parce qu'en réalité, on ne le sait pas, mais les principaux paradis fiscaux sont en Europe. C'est l'Irlande, on l'a dit, ce sont les Pays-Bas, non pas pour eux-mêmes, mais pour les résidents étrangers ou pour les multinationales étrangères. Hein. Pendant très longtemps, des entreprises comme Alcatel, comme Renault se sont installées aux Pays-Bas pour des raisons fiscales, parce que le régime qui leur a été consenti était très intéressant. C'est bien sûr Chypre et Malte, deux États qui sont même à la limite du banditisme fiscal. Et donc, il va falloir que les Européens se conforment à tout cela. Là encore, on peut penser que l'effet de souffle d'un tel accord va contribuer à faire passer ces dispositions.
Et vous pensez, François, que ces pays européens vont vraiment se soumettre à cette future réglementation mondiale ?
Je le pense, mais alors le cas le plus délicat, c'est l'Irlande, avec ses taux d'imposition à 12,5%, auquel le pays tient vraiment mordicus. Hein. C'est drôle, c'est comme une espèce de symbole de la prospérité économique du pays. Tous les gouvernements qui se sont succédés, quelle que soit leur couleur politique, à Dublin, ont maintenu cette politique d'attractivité fiscale. C'est un tabou, hein, parce qu'en fait, pour un pays qui est dans l'union monétaire comme l'Irlande, le levier fiscal reste l'un des derniers qui est dans les mains du gouvernement. En fait, ils ont pris, il y a 30 ans, une stratégie très intelligente pour eux, mais pas du tout coopérative, c'est justement de se mettre en dessous, en termes fiscaux, en termes de pression fiscale, de tous les autres. C'est d'autant plus inexplicable que quand l'Irlande était sur le flanc, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps après la crise de 2008, hein, il a fallu lui faire un prêt organisé par toute la zone euro, donc par les autres pays, de 80 milliards d'euros pour sauver les banques qui avaient spéculé dans des proportions éhontées et que justement l'Europe à ce moment-là a essayé d'imposer comme contrepartie le fait que l'Irlande remonte son taux d'imposition sur les sociétés. Eh bien, l'Irlande n'a pas voulu et l'Irlande a gagné la partie. On a payé les 80 milliards de prêts et pour autant, rien n'a changé au plan fiscal. Il faut voir quand même aussi de l'autre côté qu'en Irlande, l'influence américaine est très forte. Vous savez que la plupart des présidents américains, et notamment Joe Biden, sont ou ont été d'origine irlandaise. Ils gardent avec ce pays des liens culturels très forts. Donc on peut imaginer quand même que ça finisse par porter à Dublin aussi. Bon, alors ça ne va pas tout régler. Hein. On l'a dit, la France est aux alentours de 30%. Ça reste deux fois supérieur au taux plancher envisagé aujourd'hui, qui est de 15%. Et donc nous subirons quand même la concurrence fiscale d'autres pays. Bon, après tout, c'est un peu le jeu et on peut espérer, dans le meilleur des scénarios, que ça contribue à faire baisser les taux d'imposition en France. Hein. C'est un petit peu ce qui s'est passé récemment avec les dernières décisions de Bruno Le Maire et d'Emmanuel Macron. Et ce qui va changer, c'est l'imposition des GAFA. On ne sera plus obligé de recourir à des taxes un peu baroques et assez fragiles au plan international, qui nous ont d'ailleurs valu des sanctions américaines à l'époque de Trump, parce qu'elles seront, ces taxes, sanctuarisées par un accord international et probablement d'ailleurs renforcées par le fait que les États-Unis seront très vigilants sur le fait que les GAFA payent eux-mêmes leurs impôts aux États-Unis, mais aussi aux pays dans lesquels ils opèrent.
Et alors, ce type d'accord va-t-il s'étendre à d'autres impôts ?
Écoute, il faut quand même noter qu'il aura fallu une conjoncture tout à fait improbable. La montée en puissance des GAFA et de leur chiffre d'affaires sur Internet, donc facilement délocalisable. 2, un changement d'orientation politique important aux États-Unis avec la succession Trump-Biden. Et puis plus largement, une inversion idéologique mondiale. C'est vrai que le climat fiscal a changé. Et puis, il aura fallu aussi des années de travail sur cette question, de travail patient, un peu obscur, souvent ignoré du grand public, effectué par l'OCDE en particulier, le Forum fiscal, qui travaille sur ces questions très techniques, mais qui fait mûrir les esprits. Donc, c'est pas évident que ça s'impose pour d'autres prélèvements, d'autant que, si vous voulez, fondamentalement, le contrat fiscal qui unit les citoyens à leur gouvernement, ça reste quand même une affaire nationale. D'ailleurs, gouvernée par des choix politiques avec les élections. On vote pour un gouvernement, on vote pour une certaine politique fiscale. Et ça serait probablement mal ressenti que la communauté internationale impose de façon trop pressante des choix qui, justement, limitent les marges de manœuvre des gouvernements nationaux. De plus, un contrat fiscal, c'est aussi dépendant de la culture, de l'histoire d'un pays. Et bien sûr, du rapport qualité-prix de l'État-providence. En France, on a un contrat fiscal avec un prix très élevé. Mais globalement, comme en Europe du Nord d'ailleurs, le consensus social va plutôt de ce côté-là. On préfère avoir des impôts élevés, surtout quand on ne les paye pas, et puis avoir des prestations sociales très élevées, avoir la santé gratuite, avoir l'école gratuite, avoir comme aujourd'hui quasiment la culture gratuite pour les jeunes avec le pass culturel qui vient d'être mis en œuvre. Tout ça, ce sont des particularismes nationaux. Et il faut souvenir d'ailleurs que l'Europe avait fait des tentatives pour harmoniser les prélèvements il y a 30 ans, notamment pour la fiscalité de l'épargne. C'était Madame Scrivener, une Française, qui était à l'époque commissaire à l'épargne. Et la directive Scrivener avait tenu un moment. Mais aujourd'hui, il y a des disparités très importantes. Elle avait aussi fait une tentative pour la TVA, en établissant des fourchettes pour les différents taux. Tout ça a été balayé à l'occasion d'initiatives individuelles de certains États qui sont sortis des fourchettes. Et aujourd'hui, c'est le grand bazar. Il faut dire que pour les décisions fiscales, en Europe, c'est la règle de l'unanimité qui s'impose. Autrement dit, on ne peut pas décider quoi que ce soit sans que tous les États européens soient d'accord. Et il y en a toujours un sur les 28 qui fait valoir sa différence et qui interdit qu'on avance. Le paradoxe, d'ailleurs, c'est que cette avancée avec l'impôt minimal mondial, parce que c'en est une avancée, eh bien, elle est aujourd'hui imposée non pas par l'Europe et par ces discussions dont elle a pourtant l'habitude, mais par les États-Unis qui règlent pour elle ce problème intérieur du marché unique en tapant sur la table.
Vous pouvez retrouver cet épisode sur l'application RTL et sur toutes vos plateformes préférées.